Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Je ne veux plus du monde comme ça, le monde de la fille sans nom qui marche dans la rue. La fille sans visage qui va au tribunal, la fille sans voix et les rumeurs. La fille qui ne sait plus vivre, la fille et l'impossible, la fille et la justice. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Perrine Le Quérec. À l'occasion de la parution de son ouvrage, le prénom a été modifié aux éditions La Contre-Allée. C'est parti. Bonsoir Perrine.
Bonsoir Soazie.
Vient de paraître, le prénom a été modifié aux éditions La Contre-Allée, une maison d'édition dans laquelle tu avais déjà publié un ouvrage qui s'appelle Rouge Pute. C'est vrai que Rouge Pute a été quand même une sortie assez fracassante en poésie. En tout cas, sur les violences faites aux femmes, moi, j'avais encore jamais lu ça. Ce sont des thématiques qui ne sont pas faciles.
Non. C'est-à-dire... Et en parler, ce n'est pas facile non plus.
En parler, ce n'est pas facile non plus. Comment la poésie s'empare de ces violences ?
On n'a pas tellement le choix que de prendre à bras-le-corps cette violence. On n'a pas tellement le choix que d'inventer une langue, que d'inventer un rythme, que d'inventer une syntaxe qui va faire que ces violences-là s'entendent et qu'elles deviennent vraiment incontournables. On ne va pas se perdre dans une longue histoire, on ne va pas se perdre dans des décors, dans des détails, on ne va pas se perdre dans une histoire, en fait. C'est pour ça que la poésie, là, elle, pour moi, elle a toute son utilité, parce qu'elle me permet de raccourcir, de synthétiser, enfin d'aller au plus juste, de concentrer vraiment toute mon indignation ou toute l'indignation ou la violence qu'ont pu recevoir ces femmes en quelques mots. Elle me permet de dépasser ce qui pourrait nous noyer dans le narratif pour me concentrer véritablement sur ces actes violents. Je me dis pas, quand je commence un livre comme Le Prénom, je m'étais absolument pas dit, je savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Je m'étais pas dit, ça va être une forme poétique qui va le dire. Pas du tout. C'est à force d'écriture, c'est à force d'écouter la façon dont moi je voulais que le public l'entende, que la poésie s'impose.
Mais c'est vrai que ce soit pour le premier ou le deuxième de tes livres dont on parle ici, il y a quelque chose de l'éprouvé. Enfin, on a vraiment l'impression, et notamment puisque tu nous proposes des prologues qui expliquent aussi un petit peu ton état, j'ai envie de dire, cet endroit en fait d'écriture, on ressent très vite en fait que c'est comme si en fait il y avait eu un filtre, que tu avais digéré l'histoire, que tu l'avais peut-être ressassée, réécoutée, redite, réécrite, etc. Et qu'à un moment donné, les mots juste arrivent. Et il y a vraiment en plus ce principe que même si c'est très dur et ce sont des violences, il y a quelque chose aussi d'aller vers de la lumière, d'aller vers de l'espoir, d'aller vers une libération, vers qui vont pas être du tout les mêmes d'une histoire à l'autre, mais en tout cas, on sent bien, en fait, avec parfois si peu de mots, que tu arrives à partir de... Alors je crois que c'est dans le prologue de Rouge Pute où tu parles de ça, de partir des ombres pour faire aller ou grandir vers le soleil. Alors j'ai pas tes mots exacts, mais je me souviens très bien de cette sensation de dire « mais oui, en fait, c'est un chemin vers l'avant, en fait. »
C'est ça le plus difficile. Hein. C'est vraiment... C'est presque plus difficile que d'entendre les violences. C'est de parvenir à... Avec la poésie, en fait, qui est pour moi la langue la plus belle, je dois faire en sorte que la beauté s'entende. Que pour la lectrice ou le lecteur, on ne soit pas écrasé. Parce que ces femmes, elles sont vivantes encore. On a de la chance qu'elles soient vivantes toutes, celles de ces livres-là. C'est rendre hommage à leur courage et au fait qu'elles soient encore parmi nous, de pouvoir leur offrir, avec mon écriture, la langue que je trouve la plus belle, donc la poésie. Voilà. Et c'est vrai que je mets des avant-propos parce que ce n'est pas du tout un chemin d'écriture habituel que d'entrer dans ces sujets-là. quand j'écris des romans ou quand j'écris d'autres formes poétiques, j'ai absolument pas besoin de présenter ce qui va être dans le livre, parce que c'est de l'écriture quotidienne qui peut m'entraîner dans des conflits, parfois des situations complexes aussi, mais ça n'a rien à voir avec prendre en charge des réalités aussi pénibles et qui vont, je le sais, m'affecter beaucoup. Donc je tiens à expliquer, et aussi peut-être par précaution pour ceux qui vont lire le livre, je tiens à expliquer comment j'entre dans cet état d'esprit et peut-être ici comment j'en ressors. Pour Rougeput, il m'a fallu des mois avant de pouvoir de nouveau écrire, alors que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Rougeput, c'est l'ouvrage qui m'a coupé de l'écriture ensuite pendant plusieurs mois. Je pouvais absolument plus du tout écrire. Le prénom, ça a été différent parce que j'avais adopté un rythme d'écriture quotidien pour rendre hommage à cette femme. J'avais vraiment décidé d'écrire tous les matins pour elle, dès que je me réveillais, avant toute chose, avant de faire n'importe quoi d'autre, c'était d'abord écrire pour elle. J'ai pas eu du tout la même difficulté après à revenir à une autre écriture, voilà, parce qu'il y avait eu un rythme qui était entré dans ma vie et ça a été plus facile, entre guillemets, de revenir à l'écriture. Mais ce sont vraiment des écritures qui me marquent et parfois me laissent sur le flanc, quoi, vraiment.
Mais c'est, enfin, en même temps, même en tant que lectrice, en fait, c'est des textes qui nous mettent KO. En fait, et il y a enfin, le terme est même pas exagéré, c'est qu'en plus toi-même, dont le prénom a été modifié, il y a quelque chose du combat, de la guerre. Enfin, il y a un lexique quand même très franc. Et c'est vrai qu'on est assez saisi par ces textes qui vont droit au but. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça d'assez radical en fait dans la façon de dire. Et en même temps, on sent toute une bienveillance et une réelle tendresse en fait pour la personne dont tu parles. Oui. Et ça, en fait, cette double lecture, elle, enfin, en tant que lectrice, il y a un côté vraiment ballotté l'un à l'autre qui est génial, parce que la poésie, c'est ça aussi, c'est quand on est trip et cœur, quoi. C'est un peu, on y va ensemble. Mais en même temps, enfin, c'est vraiment de la finesse d'écriture, en fait. Je me dis, pour réussir à être comme ça, ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre, sans oublier en fait qui elle est au milieu. Enfin, c'est vraiment un équilibre assez fou.
Parce que dès le début, pour moi, ce sont des héroïnes. Donc, la façon dont je vais m'adresser à elles, puisque c'est très intime, ces écritures-là, même si ensuite elles sont destinées à être publiques, pour moi, dans mon esprit et dans chaque jour d'écriture, ce sont des héroïnes. Ce ne sont pas des victimes. Donc forcément, et je suis contente que tu le ressentes, voilà, forcément je peux trouver cet équilibre qui fait que je peux dire franchement, cruellement et avec les mots parfois d'une très grande violence ou d'une très grande vulgarité ce que j'ai à dire, mais elle n'en reste pas moins de parfaites héroïnes, quoi. Je pense que c'est pour ça que je peux trouver cet équilibre. Comme tu viens de le décrire.
C'est super beau. Parce que c'est vrai que dans les violences sexistes et sexuelles, on a la victime et l'agresseur. Alors on se bat dans les féminismes pour que l'agresseur soit beaucoup plus vu, en fait. Parce qu'au final, on le sait bien, la façon dont on parle en fait, de ces terribles histoires, c'est toujours comme s'il n'existait pas. Comme si la victime était seule. Enfin, les procédés narratifs à ce niveau-là sont assez affligeants, oui, en fait, quand même, hein, oui. Pour par les médias. Et là, en même temps, de la passer, comme tu dis, en héroïne, En fait, il y a vraiment quelque chose de l'encouragement, en fait, qui fait partie pour moi dans tout ce process de vers le soleil, vers la lumière, vers l'espoir, vers la vie, vers la liberté, et qui fait tellement de bien. Parce que c'est vrai que ces violences, on n'arrive pas à en sortir.
Oui.
On a beau être à 5 ans MeToo, quinquennat, double quinquennat, cause du quinquennat, ça, on n'en sort pas du tout.
Non, on n'en sort pas du tout. Non.
Mais il faut quand même savoir, en fait, qu'il peut y avoir cette lumière-là.
Je crois que c'est capital de savoir ça. Enfin, sinon, on serait complètement écrasé, quoi. Mmh. On n'aurait plus envie d'agir, ni d'écrire, ni de lutter. Il faut absolument être... Enfin, il faut que ça soit ça qui nous guide. Le fait que, oui, on peut... on va s'en sortir. ça va s'arrêter. On va bouger les choses. Ça ne peut pas rester comme ça. Et même si ça fait des siècles que c'est comme ça, même si les mensonges s'accumulent, les hontes, les scandales... Non, ça ne va pas rester comme ça. Moi, j'en suis persuadée. Mm-hmm. C'est mon combat.
Et on pourrait sentir quelque chose de la revanche aussi. On aurait pu tomber dans quelque chose d'hargneux, de... mais parce que à force, en fait, on ressent ça aussi. Mm-hmm. On a envie de péter des têtes,
oui,
en fait. Vraiment.
Souvent.
On a appris aussi que toute cette rage-là, en fait, elle n'était pas suffisante pour notre survie et qu'il y a un besoin d'aller vers cette lumière. Mm-hmm. Et c'est la poésie, la littérature, je trouve que c'est des endroits tellement importants, en fait, pour apporter...
Oui, c'est une alchimie.
Que peut-être, oui, spontanément, on n'arrive pas à avoir en soi, en fait.
Voilà, c'est sa place à la poésie, là. Ouais, pour c'est moi, c'est vraiment sa place, ouais.
Bon, on a fait pas mal de suspense, là, mais je pense qu'on a envie de t'entendre. Juste pour qu'on ait ta langue dans les oreilles.
C'est tout noir et marche devant, seule droite, avance en face debout. À la maison, je fais la vaisselle et je recommence encore une fois, une autre pour tuer le temps, parce que dehors, non. La nuit a duré, enfin celle où j'ai dormi plusieurs heures sans cauchemar, parce que la bouche pleine de médicaments bouffait la mort, pleine bouche la dévorait. Je suis redevenue une fille normale, après 15 ans, une folle normale, violée normale, victime normale, on me remarque plus. Pas faire le moindre bruit et laisser la graisse recouvrir tout, m'avaler, me protéger, me transformer en rocher, en obstacle, en montagne. Faut pas parler. Jamais crier. Dans la cave non plus. Il faut sortir, la rue, voir des visages et même revoir ces visages-là pendant 15 ans encore et aujourd'hui en salle d'audience ces visages-là encore. Personne jamais ne me parlera le soir, chuchoter un baiser, un sourire. Personne jamais. Un jour de plus. J'ai déambulé dans les rues autour de la cité, croisé des copines, je prends un café, au Franprix à manger, rejoindre l'appartement, la famille, le repas assuré et les médicaments le soir pour oublier la vie, cette vie sans moi, depuis 15 ans. Continuer comme ça, un jour de plus. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir. Et marche devant, seule, droite, avance en face, debout. Même dans l'appartement, avancer, c'est loin. La chambre, c'est loin. Après, tout est devenu loin, j'arrivais plus rien à atteindre, il me fallait toujours des kilomètres et des heures. 70 kilos en plus, c'est lourd, c'est le poids d'un homme. J'ai toujours un homme sur moi, en plus de moi, depuis 15 ans. Parfois, je prends le téléphone pour parler à quelqu'un, peut-être pour dire, pour raconter. J'ai l'idée d'appeler Isabelle ou Roxane ou quelqu'un. Au bout de 20 minutes, je pose le téléphone et repars dans le couloir. Quand j'avais 12-13 ans, je croyais à l'amour et tombais amoureuse, celui qui te protège donc le plus fort, mais c'est le mauvais choix. Je lavais mes cheveux quand j'avais rendez-vous avec toi. Je sentais bon. Chaque garçon attendait son tour. Le pantalon en bas, la cave puante, le matelas défoncé et les caisses. J'étais là. Je sors de moi, je ne sens plus rien. Tu peux entendre le bruit de mes pantoufles qui traînent sur le lino. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout. 15 ans après, encore un viol. On me fait tourner dans la salle d'audience sous les yeux du juge. 10 acquittés, 4 condamnés, 14 hommes sur mon corps. Les mineurs, leur jugement, c'est pour plus tard, encore plus tard. Mineurs, majeurs, 15 ans, c'est quoi ? Et combien dans mon corps ? Un an maximum, autant dire rien, même s'il y a un chiffre. Moi, c'est perpète depuis 15 ans. Un autre est recherché, sa peine sera plus lourde, mais pas pour moi. C'est pour sa femme assassinée, son fils enlevé et séquestré, moi aussi assassinée, j'avais 15 ans. Ça ne compte pas, je suis encore vivante depuis. J'ai tant d'années de mort derrière moi et 70 kilos en plus, 120 kilos. Et on ne me voit. Toujours pas. Je suis lourde, pesante, interminable. Quand ils ont eu fini de me faire tourner, le juge, les avocats, les mêmes visages, j'avais 15 ans, au fond de la cave, dans le local à poubelle, quand ils ont eu fini, je suis repartie. Je marche dans la rue, et puis d'un coup, il m'arrive quelque chose d'effrayant. Chaque fois que j'arrive à une rue transversale et que je quitte le trottoir, j'ai l'impression que je n'atteindrai jamais l'autre côté de la rue. Je vais m'enfoncer dans le sol, disparaître là, effacée, personne ne me verra. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout. J'ai mal à moi. Je m'assois par terre étourdie.
Merci Perrine. Il y a quelque chose de évidemment magnifique et il y a aussi quelque chose de très encadré. C'est-à-dire que ton début et ta fin, au fur et à mesure du texte, on ne les lit pas de la même manière. Et ça, ça a demandé plusieurs lectures pour que je m'en rende compte. La première lecture, je ne les lisais pas. Ça m'encombrait. Je ne comprenais pas ce qu'il venait de faire là. Je n'arrivais même pas à comprendre le sens de la première phrase. Et il a fallu vraiment le lire à haute voix, me dire « mais de quoi on parle ?» D'accord. Et, ça... et là, il y a carrément deux sens qui sont arrivés. Enfin, il y a eu quelque chose de très... C'est incroyable comme la poésie peut l'apporter. C'est de dépasser, en fait, les mots et d'arriver à d'autres sens. Cet encadrement-là, quand tu as décidé de ton rituel d'écriture, tu les avais dit déjà, ces phrases-là.
Ça a été les premières phrases. La répétition, elle a beaucoup de sens. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit tous les matins. Donc tous les matins, pour aller vers elle, c'était cette phrase-là. Ensuite, parce qu'elle a ces viols qu'elle a subis, ça a duré des mois. Est-ce qu'on peut simplement imaginer la répétition de ces viols ? C'est vrai que les phrases, au début, on ne veut pas les lire. C'est vrai que c'est vraiment pénible de devoir les lire à chaque poème. C'est vrai que c'est lourd et qu'on a envie qu'elle n'existe plus et que ça fait mal. Mais c'est rien, c'est juste des mots. C'est ça que je voulais qu'on essaye de ressentir, c'est qu'est-ce que c'est que la répétition ? Et là, c'est juste des mots, c'est juste deux phrases qui se répètent. Alors peut-on simplement imaginer, ressentir un tout petit peu ce que ça peut être la répétition d'actes violents ? C'est pour ça que je les ai placés là, jusqu'au bout.
Presque.
Jusqu'au bout.
Tu parles des mots dans les extraits qu'on vient d'entendre, tu parles de dire, tu parles de parler, de... Enfin, j'ai eu vraiment l'impression ici que tu as convoqué en fait les mots pour la dire, pour l'aider à, enfin l'aider c'est pas le bon terme, pour la faire exister, parce que c'est vraiment le combat contre le silence. Ce principe de convoquer, je trouvais que ça fonctionnait assez bien avec ton texte, où en fait il y a ce principe de dire, de convoquer les mots, mais aussi de convoquer la justice très fortement. Et ça, tu règles ton compte à la justice hein, quand même.
Bah oui, parce que Le livre, le premier texte, je l'ai écrit après avoir entendu le premier compte-rendu du procès qui avait lieu. Et à l'écoute de ce premier compte-rendu par les médias, avec tout leur vocabulaire absolument ignoble, dont les tournantes, j'ai su qu'elle n'allait pas être écoutée. J'ai su que c'était fichu. Dès la première, dès le premier compte-rendu, j'ai su que c'était... que c'était déjà voué à l'échec, qu'on n'allait pas l'écouter, qu'on allait la faire souffrir, qu'il y allait avoir un ramassis de mots tous plus ignobles les uns que les autres et que justice ne serait pas rendue. Et ça m'est vraiment insupportable. Comme toutes les femmes que j'ai rencontrées pour Rouge Pute, les dysfonctionnements de la justice me sont vraiment insupportables. Vraiment, je m'élève très fortement contre la façon dont on accueille ces femmes, dont on ne les accueille pas, la façon dont on ne les écoute pas, la façon dont on les stigmatise, dont on les montre du doigt, dont on les humilie. Je ne supporte pas ça. Donc oui, j'avais envie que dans ce livre, comme elle, on l'a obligée, et elle a eu ce courage immense d'être de nouveau devant ses agresseurs et d'essayer de se faire entendre, mais c'était peine perdue, quoi. Donc je les convoque, ouais, tous. Mais venez et qu'on s'explique, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là.
Oui, il y a quelque chose aussi du procès contre la justice. Donc on peut imaginer, tu découvres au fur et à mesure ces articles, la situation de ce qui se passe au jour le jour, et direct, en fait, tu règles son compte. Enfin, j'imagine quelque chose d'assez...
Oui, c'était comme si j'étais là avec eux et que je prenais la parole... Sauf que j'aurais bien eu du mal à prendre la parole, mais je prenais la parole pour les mettre devant leur vocabulaire, devant leurs actions ou leur insuffisance d'action, devant leur agressivité. Voilà, c'était... Ma page, elle devient vraiment le lieu du procès. Elle devient aussi le lieu du réconfort pour cette femme et pour les autres femmes. L'endroit où j'essaye de les accueillir. Moi, je voudrais les accueillir. Moi, je veux les entendre. Moi, je veux que leur voix s'entende, contrairement à ce qui se passe. Et je veux aussi que le vocabulaire employé par les médias soit montré du doigt. La façon dont ils traitent ces affaires-là. Ça s'appelle « Le prénom a été modifié » parce que dans tous les comptes rendus dans les journaux, cette fois-ci dans la presse écrite, donc il y avait un prénom pour désigner cette jeune femme, qui n'était pas son prénom, donc avec le petit renvoi en bas de l'article qui disait « le prénom a été modifié », sauf qu'il y avait sa photo. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Et tout est comme ça, quoi. Tout est perverti. Avec la poésie, il n'est pas question de pervertir quoi que ce soit, parce que le choix du mot est tellement important, la combinaison des mots, qu'on va pas, on peut pas mentir, on peut pas... On ne peut pas dissimuler, on peut faire comprendre plusieurs choses avec un mot, oui, mais ce sont des mots justes. Ce sont des mots qui, j'ai vu sur tes tables, qui transportent des explosifs, c'est vrai, qui transportent la vérité, quoi. Sinon, à quoi bon écrire? Enfin, de mon point de vue, hein, c'est mon travail à moi, mais voilà.
Mais d'autant que sur ce qu'on voit avec MeToo, parce que... Bon, là, en plus, d'autant qu'on est sur les mois anniversaires, etc., c'est horrible en même temps. Je trouve ça... Enfin, il y a quelque chose du temps qui passe, et de la commémoration, et en même temps de se dire, mais tout s'est dit, tout a été dit, et tout continue de se dire. Et pour autant, l'écoute est manquante. Et c'est ce que j'avais indiqué, tu convoques l'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toutes ces paroles de femmes, de personnes violentées, elles peuvent donner l'impression d'un certain bruit, oui, parce qu'il y en a partout, dans tout l'encens, dans tous les milieux, enfin, c'est absolument vertigineux. Mais pour autant, il n'y a pas encore eu l'écoute. Parce que entre nous, il y a quelque chose de oui, on sait, on n'est pas seul, etc., on te croit. Mais pour autant, c'est bien ce que tu dis, la justice n'a pas du tout bougé, en fait, là-dessus. Ça reste vraiment un petit peu ce domaine intouchable. Mais là, ce que tu convoques avec cette écoute, c'est de dire, mais là, on va tout montrer, on va tout dire, on va faire tout le chemin ensemble. Et en fait, c'est cette jeune femme-là qui va prendre la main.
Oui.
Et on revient sur ton principe de l'héroïne, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de rendre, en fait, justice nous-mêmes,
oui.
En fait.
Oui, on est quand même mieux servis... par nous-mêmes, quoi. Voilà. Même si, malheureusement, les décisions que nous, on aimerait prendre, elles ne sont pas appliquées. Donc, quel pouvoir il nous reste? Moi, si mon mode d'expression, ce n'était pas l'écriture, si je savais parler, si j'étais politicienne, ou je ne sais pas, ou juge, ou avocate, voilà, j'aurais une place là, quoi. Bon, ben, moi, ce que je sais faire, c'est écrire, donc je prends ma place là. Mais oui, je convoque l'écoute, je vous convoque à écouter, bien entendu, quoi. Je veux qu'on les entende, vraiment.
Il y a aussi, complémentarité de tout ça, tout le principe de l'archive, qui est essentiel en fait dans les luttes, mais qui est aussi essentiel dans la poésie, surtout en tant que poétesse. En fait, tu proposes une archive de ce procès, de cette histoire, de cette jeune femme, de tout ce qu'elle a vécu, et en même temps, en fait, toi-même, tu rentres dans un processus d'archiver ta poésie grâce au livre qui est publié. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet objet livre et ce principe de l'archive, que ce soit pour les luttes ou la poésie? Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un endroit qui te touche.
Complètement. L'archive, c'est notre mémoire. C'est notre mémoire commune et c'est notre bien. Si on oublie notre mémoire, on est fichu. Si on n'écoute pas le passé, si on n'écoute pas ce qui s'est déroulé, si on n'écoute pas ce qui a déjà eu lieu, alors on répète inlassablement. Donc l'archive, elle est pour moi capitale. Alors elle est capitale à beaucoup, beaucoup de niveaux. Pour le prénom a été modifié, ce livre, il a été publié une première fois, en 2014, qui était vraiment le moment du procès. Le fait qu'il soit republié maintenant, ça prouve bien, et d'un, que ça n'a pas bougé, que ce livre, il est autant nécessaire maintenant qu'il ne l'était au moment du procès, puisqu'il y a eu d'autres crimes depuis, et bien, bien d'autres même, mais il fait quand même, figure d'archive, oui. Ce procès-là, il a eu lieu dans ces années-là. Regardons ce qui s'est passé. Ne faisons pas comme si ça n'était pas arrivé, c'est écrit. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se servir de ça. Pour écrire le prénom, comme matériau, le mot est vraiment inhumain, je suis désolée de l'utiliser, il y avait bien sûr ce qui se passait au jour le jour avec ce procès particulier, mais j'ai aussi été consultée énormément d'archives judiciaires sur d'autres histoires et d'autres cas de viol collectif, de viol en réunion, pour entendre toutes ces voix, pour entendre à tous les niveaux, policiers, de la justice, des médias et aussi des victimes, comment elles avaient parlé, comment ça avait été entendu. Et tout ça, moi qui travaille sans cesse avec l'archive historique, ça a infusé, ce qui fait que la voix de cette jeune femme, elle porte aussi la voix de plusieurs autres victimes. Voilà. Quand on entend les femmes dans Rougepute, ça peut devenir une archive. Si quelqu'un, un jour, veut dresser un panorama des violences faites aux femmes, ce qu'elles ont dit, et qui est sur le moment, l'actualité, qui n'est pas encore d'archive, peut servir d'archive. Moi, je n'arrive pas à comprendre le présent sans écouter le passé, sans écouter ce qui a déjà eu lieu. Sinon, je vais manquer des choses, je vais manquer... Il y a peut-être des jugements qui ont été rendus et qui ont été bons, et ça peut servir d'exemple. Il y a peut-être des victimes qui ont dit des choses que d'autres n'ont pas dites, et là, il faut aussi se servir de ce mot-là. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est la matière de l'écriture. Et quand c'est de la poésie, c'est aussi la matière de la poésie. Voilà.
En fait, toutes ces matières-là qui ont été écrites, qui ont été... consignées dans les livres, d'une certaine façon, la meilleure façon qu'elles ne disparaissent plus jamais.
Oui, moi j'ai l'impression.
En fait aussi.
Oui.
Parce que là, tu parles des archives, du passé, et je me dis, mais où est-ce qu'on trouve tout ça? Donc il y a les registres...
Oui. Voilà, si on n'y va pas dans ces endroits qui sont pourtant publics, on a tout à fait chacun la possibilité d'aller consulter les archives. C'est vraiment... C'est pas intimidant, c'est vraiment tout à fait possible, et c'est à nous, ces archives-là. Si on n'y va pas, évidemment, on peut pas savoir tout ce qui s'est déjà passé, tout ce qui a été consigné. Donc, effectivement, pouvoir recenser de temps en temps une partie de cette mémoire, et puis à l'aune d'un nouveau scandale, pouvoir les utiliser, les mettre en lumière, ça me semble vraiment important. Oui.
La phrase de fin, à chaque fois de tes pages, parle d'étourdissement. Et tout le trajet que tu fais vers cette fameuse lumière, c'est marrant, il y a quelque chose d'assez, à chaque fois, très imagé, je trouve, dans cette poésie. De ce fait, c'est aussi tout un process de l'amener à se restabiliser. Et notamment, bah, les mots vont ensemble, c'est-à-dire puisqu'elle ne va plus être étourdie, de ce fait, elle se stabilise. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Est-ce que là, c'est quelque chose qui vient de toi, de lui apporter ça, de lui offrir ça, ou c'est quelque chose que tu as lu d'elle, que tu as compris d'elle? Parce que c'est un rapport qui est finalement hyper intime avec cette femme, ton héroïne, mais malgré tout, tu ne lui parles pas, tu n'es pas avec elle concrètement. Donc cet endroit-là, de lui la faire se reposer vraiment sur ses pieds, d'être ancrée de nouveau, comment tu l'as vécu, comment tu l'as créé?
Tu vois, tu disais qu'à force, une fois que finalement tu avais accepté de lire ces deux phrases, il y a des sens différents qui ont pu se déplier. Dans les premiers temps de cette phrase, je m'assois par terre étourdie. Étourdie, c'est comme on étourdit les animaux à l'abattoir. C'est bien plus qu'un étourdissement. C'est avant la mise à mort. Au fil des pages, et puisqu'on va vers cette presque lumière, l'étourdissement, effectivement, il prend plus cette notion de, comme on est étourdi, quelque chose de beaucoup plus léger, quoi. Moi, chaque matin, d'écrire ça, j'étais assise en écrivant. Si je n'avais pas été assise, après chaque page écrite, j'aurais dû m'asseoir. J'ai une telle empathie avec mes héroïnes que ce coup fatal qu'elle recevait chaque jour, je le recevais chaque jour. À partir du moment où on est en empathie comme ça, j'imagine bien qu'elle, sortant du tribunal chaque jour, elle ne marchait pas comme au début de chaque journée, seule droite. Elle devait vraiment être abattue, et même bien plus qu'abattue par tout ce qui s'était passé dans cette journée. Donc toutes deux, moi, évidemment, de façon protégée, rien à voir, hein, juste avec l'écriture. Moi, j'étais étourdie de cette plongée dans la noirceur. Elle était étourdie de l'épreuve supplémentaire qu'elle avait dû encore dépasser. Donc ce mot-là, c'était d'abord pour dire « nous sommes ensemble » et ensuite pour rejoindre ce que je te disais tout à l'heure, à savoir « je veux l'accueillir ». Effectivement, je veux qu'elle ait un endroit pour s'asseoir. Je veux qu'elle puisse reprendre son souffle avant la prochaine journée qui sera encore une journée de massacre. Donc, avec le décrescendo de l'étourdissement comme les bêtes à l'abattoir jusqu'à l'étourdissement bon, dont tu peux te relever quand même vivante, c'était aussi créer en une phrase l'endroit où on pouvait se retrouver sans ennemis, sans violence, un endroit presque de repos, quoi. Et dans la langue, et pour elle, après l'épreuve qu'elle venait encore une fois de devoir traverser. C'est là où on voit bien que la poésie, par un choix de mots vraiment ressenti, parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire de la poésie de façon... Enfin, bon, ça existe de façon extrêmement... conceptuel, mathématique, mais on n'est plus dans le même terrain, là, voilà. Chaque mot, on le ressent, il passe vraiment dans le corps. Moi, ce que j'écris dans la poésie, c'est une poésie du corps. Son corps, à elle, il traverse toutes les pages, ce corps qui est alourdi par cet homme symbolique de 70 kilos qu'elle porte sans cesse sur elle. Donc, chaque mot, il pèse. Chaque mot, je le ressens, et c'est comme ça que je le choisis. À partir du moment où il me percute, à partir du moment où il me provoque une sensation charnelle, je sais que c'est le bon mot. Pour Rougepute, c'est pareil. Chaque mot qu'elles m'ont dit, nous avons énormément parlé, j'ai énormément copié à la main, hein, puisque je travaillais à la main tout ce qu'elles voulaient bien me confier. De tout ce qu'elles m'ont dit, j'ai extrait les mots qui avait eu un impact sur leur corps et sur le mien. Et c'est pour ça que je crois que ces textes, ils peuvent vraiment se recevoir dans le corps et dans l'esprit, quoi. C'est comme ça que je l'ai choisi.
Mais le process d'écriture, il est à 1000%, là. Enfin, il y a quelque chose d'une intensité. En fait, il y a quelque chose qui se mélange entre toi et elle, tes mots, les siens, son vécu, etc. Et j'ai trouvé... Enfin, c'est toujours difficile de parler de la fin, mais pour autant, merci. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. L'ouverture, je trouve, dans nos histoires, elle est primordiale. C'est tout ce qu'on dit et qu'on essaye d'infuser depuis tout à l'heure, de cette lumière, de ce soleil, de cet espoir, de cette stabilité, on peut reprendre la marche, on peut... En fait, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui va arriver d'autre, en fait.
C'est pour ça que ce sont des héroïnes. C'est parce qu'elles... Elles, de leur courage, de leur action, elles nous montrent bien qu'elles sont toujours là et que malgré tout ça, elles sont debout et vivantes et admirables. On n'a qu'à les écouter finalement, je veux dire, même au-delà de leur témoignage sur ce qui leur est arrivé. On n'a qu'à écouter leur vie après pour voir qu'elles sont là. Peut-on imaginer traverser tel enfer et être encore là? Oui. Bon, alors, avec l'écriture, on n'a vraiment qu'à les suivre et puis à offrir cette possibilité aussi. On sait, ces livres-là... bon, je vais d'abord parler de Rouge Pute, puisque j'ai plus de recul... J'ai beaucoup de lectrices de Rouge Pute qui ont été victimes de violences. Pas celles qui sont dans le livre, mais d'autres, donc des lectrices. Et qui, grâce à cette lumière qui infuse aussi dans les derniers poèmes du recueil, ont trouvé le courage de quitter leur conjoint violent. Parce qu'elles ont vu que c'était pas simplement... que cet enfer-là, en fait, il avait une porte de sortie, voilà. Donc c'est la moindre des choses que d'offrir ça dans le livre, bien sûr. C'est vraiment la moindre des choses.
C'est magnifique. Je trouve ça tellement beau. On se dit, mais toutes les façons qu'on met en place, en fait, pour se sauver, en fait, quand même, c'est quand même ça, l'idée.
Ouais.
On essaye de se sauver, de sauver les autres, de se sauver les unes les autres. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Perrine.
Merci, Swazik.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Perrine Le Quérec à l'occasion de la parution de son ouvrage « Le prénom a été modifié » aux éditions La Contre-Allée. La Franchie Podcast, c'est Swazik Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.